Je suis actuellement en poste à Fribourg, en Suisse, et mes travaux de recherche portent sur la question du jeu et de l'apprentissage, et jeu numérique et apprentissage. Mais avant, dans ma vie antérieure, j'étais à l'ENS, j'étais à l'Institut français de l'éducation, j'étais responsable de l'équipe Eductis, et aussi responsable d'un projet qu'on appelle GenLab, un projet sur l'usage du jeu numérique en éducation.
Donc, je suis maître de conférence à l'INSA de Lyon. Je travaille au laboratoire d'informatique de Lyon qui s'appelle le LIRIS, dans une équipe qui travaille sur l'interaction située, la collaboration et l'apprentissage, qui s'appelle SICAL.
GenLab, ça veut dire jeu épistémique numérique. Et le point lab venait insister sur le fait qu'on utilisait un laboratoire qu'on avait qualifié laboratoire d'innovation pédagogique et numérique.
Donc, le projet GenLab, c'est un projet ANR qui a été financé pour 4 ans, qui regroupe des partenaires académiques. Il y a 4 partenaires académiques, donc il y en a 3 qui sont à Lyon, donc le laboratoire d'informatique, le LIRIS, et puis 2 qui sont regroupés à l'ENS, donc il y a ICAR, et puis il y a Eductis à l'IFE, et un partenaire académique à l'Université du Mans, donc c'est le LIUM. Et puis, on a un partenaire industriel à Grenoble qui est l'entreprise Symetrix.
Alors, dans ce projet, on s'intéressait à trois points. Le premier point, c'était de comprendre et de modéliser une situation de jeu qui a des visées éducatives, donc des objectifs heuristiques. Il y avait aussi une visée qui était méthodologique, c'est-à-dire qu'on essayait de combiner le fait qu'on travaillait avec des enseignants pour construire et expérimenter des situations de jeu dans les classes avec des dispositifs d'analyse de traces, on appelle ça les learning analytics, ou en français l'analytique de l'apprentissage. Et on avait aussi des visées très pragmatiques, c'est-à-dire concevoir des jeux. Il fallait bien les expérimenter en classe, donc il fallait les concevoir. Et on a construit comme ça trois jeux qui ont été testés dans des classes ou en situation de formation professionnelle.
Les 3 jeux qui ont été développés au cours du projet s'applique à des contextes très différents de par les disciplines qui sont couvertes, mais aussi par les publics. Pourtant, ils ont des caractéristiques communes. Les jeux épistémiques en fait répondent à différentes caractéristiques. Il y a différentes dimensions qui permettent de construire des jeux épistémiques. Il y a les dimensions pluridisciplinaire. Il faut qu'un jeu épistémique couvre plusieurs disciplines. En général, on va couvrir des problèmes complexes, non déterministes. On a 2 aspects importants, la dimension ludique, mais aussi la dimension interaction sociale. Les jeux, chacun à sa façon, couvrent des dimensions des jeux épistémiques.
Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, le terme serious game est beaucoup plus répandu que le terme jeu épistémique, qui est plutôt utilisé par des chercheurs. Alors, il y a différentes raisons à cela. Notre point de vue sur l'apprentissage par le jeu était que ce qui est important, ce n'est pas tant l'artefact avec lequel on joue, l'artefact avec lequel on joue, c'est-à-dire le game au sens anglo-saxon du jeu, mais plutôt la situation, le play, qui est mise en place lorsque l'on joue, on fait jouer des élèves pour apprendre.
La différence entre un jeu sérieux et un jeu épistémique, en fait, pour moi, elle réside dans la situation pédagogique dans laquelle on plonge l'apprenant. Dans un serious game classique, un jeu sérieux, on va surtout focaliser sur un scénario assez poussé. Et on va plonger l'apprenant dans un univers en plus emprunté aux jeux vidéo, à la science-fiction, aux jeux de rôle. Et ça a montré ses limites, hein. Il y a des études qui montrent que les gens ont des difficultés finalement ensuite à remobiliser les savoirs ou les compétences qu'ils ont acquises dans cet univers très particulier lorsqu'ils ont besoin en fait en situation réelle de ces compétences-là. Il y a un problème de transfert de savoir. Le jeu épistémique numérique, lui, à la différence, il va s'ancrer dans une réalité. On va insister sur ce qu'on appelle l'authenticité des situations. Et d'ailleurs, on a dans le projet hein, une réflexion sur les technologies, parce que justement, grâce à différentes nouvelles technologies, on va pouvoir introduire des interactions plus réalistes dans les situations et qui vont permettre finalement, tout en restant dans un jeu, de mobiliser bah, des compétences qui, dans une situation proche de celle que les gens ensuite vivront dans leur expérience professionnelle, par exemple. Donc ça, pour moi, c'est une différence importante entre le jeu sérieux et le jeu épistémique. Puis après, il y a aussi des dimensions interactions sociales qui sont plus explorées, on va dire, dans le jeu épistémique numérique que dans le serious game qui souvent est individuel.
C'est une question bonne et très importante parce que pour un enseignant, c'est un peu difficile parfois de trouver sa place lorsque des élèves sont en situation de jeu. Pour nous, il est clair qu'il faut que ce soit un vrai jeu au sens où finalement les élèves soient en situation de jouer. Et le jeu, c'est subjectif. Hein. Le jeu, effectivement, dépend du joueur. On n'oblige pas quelqu'un à jouer. Donc, in fine, c'est la situation de jeu. Elle va être créée par l'élève qui va devenir à un moment joueur. Et s'il y a un vrai jeu dans la situation, là, il y a pour l'enseignant une difficulté à trouver sa place parce que le jeu n'est pas une situation habituelle que l'on trouve, dans laquelle il se trouve dans la classe. Alors, on a, à travers ce projet et à travers d'autres, identifié cette place. Alors, il y a différentes possibilités, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enseignant joue un rôle très important en amont. Alors, d'abord pour la conception du jeu, parce que finalement, les enseignants ont participé à la conception du jeu. Également pour la conduite, pour amener les élèves à s'engager dans le jeu. Il y a des choses à faire qui ne sont pas complètement triviales. Pendant le jeu, l'enseignant va jouer plutôt le rôle d'un game master. Il va être en mesure d'animer le jeu. Et l'un des résultats du projet, par exemple, ça a été de repérer que ce qui était important, ce n'est pas tellement de donner aux enseignants des outils pour concevoir les jeux, mais plutôt des outils pour les gérer. On a appelé ça des play management systems, des systèmes de gestion de jeu, c'est-à-dire qui permettent aux élèves de s'inscrire sur la plateforme, de recevoir des points, de leur retirer des points, de retirer des badges. Enfin, il y a tout un système qu'on a conceptualisé dans le cadre de ce projet. Et puis l'enseignant, il va jouer un rôle crucial à la fin du jeu, c'est-à-dire que le jeu est fortement placé dans un scénario pédagogique plus large. Et il y a un moment où on arrête le jeu et puis on réfléchit, on fait une réflexion sur ce qui s'est passé à l'intérieur du jeu et les connaissances qui ont été mobilisées dans le cadre du jeu sont des connaissances qui vont être institutionnalisées, c'est-à-dire qui vont devenir des savoirs transférables, puisque ce qu'on veut, au bout du compte, c'est que les connaissances du jeu soient nommées par les élèves, il y a des concepts hein, derrière, et qu'elles soient transférables à d'autres situations. Alors, je vais insister effectivement sur le fait que le travail a été fait ici, à l'Institut français de l'éducation, dans l'équipe Eductis. Dans son laboratoire, le projet nous a permis de mettre en place un laboratoire qu'on a appelé Laboratoire d'innovation pédagogique et numérique. Et ce laboratoire, c'est un lieu, ce sont des méthodes, ce sont des ressources humaines pour permettre la rencontre entre des chercheurs et des enseignants. C'était vraiment l'objectif, on appelle ça la recherche orientée par la conception, c'est-à-dire que la conception d'un dispositif innovant va venir au service de la recherche, mais la conception va venir aussi alimenter un certain nombre d'innovations, et en particulier, on a développé dans le cadre de ce dispositif, enfin de ce projet, pardon, des jeux pour les enseignants. Donc, au bout du compte, Insectophagia, par exemple, a été développé par une équipe d'enseignants et testé par cette équipe d'enseignants dans un cadre de recherche qui fait qu'on a pu en évaluer les effets. Et maintenant, les enseignants produisent des ressources qui ne sont plus uniquement pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, mais des ressources qui soient utilisables par des collègues. Et donc, il y a toute une mise en forme de ce qui a été produit, de manière à ce que ça soit diffusé sur le site du projet. Et donc, les enseignants qui vont se connecter sur ce site pourront à la fois récupérer des ressources, à la fois récupérer des témoignages, et puis, finalement, adapter le jeu qu'ils récupèrent à leur contexte, puisqu'on n'imagine pas qu'un enseignant, c'est simplement quelqu'un qui se sert sur des étagères, mais c'est plutôt quelqu'un qui va adapter des choses qu'il a trouvées à son contexte particulier.
Alors dans GenLab, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai travail mené de front entre les chercheurs et puis les enseignants et le terrain, on va dire. Et ça permet en fait à chacun d'alimenter ses objectifs. Pour le chercheur, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des terrains et des jeux qui sont joués de façon écologique dans plusieurs classes, avec des profils différents et avec des retours qui permettent en fait d'enrichir et de confronter en fait les modèles que l'on fait en laboratoire, les petites expériences qu'on fait en laboratoire contrôlé, et d'expérimenter les dispositifs en situation écologique, ça permet d'avoir des retours beaucoup plus riches. Les chercheurs, ils permettent aussi d'accompagner les enseignants dans leur travail de conception. Et donc l'échange est riche et des deux côtés.
Il y a différentes approches méthodologiques quand on fait de la recherche. Il y a différentes possibilités de créer des connaissances. Quand il s'agit d'éducation, notre point de vue est le point de vue de l'équipe éductrice, qui est une tradition qui est portée depuis maintenant de nombreuses années, c'est de considérer que pour comprendre la classe, il est bon d'y aller et il est bon de travailler avec les acteurs qui sont dans les classes. Alors ce sont les enseignants, mais ce ne sont pas uniquement les enseignants. C'est-à-dire que on a mis en place à l'Institut français de l'éducation les lieux d'éducation associés, qui sont en fait une façon de contractualiser des relations entre des praticiens, des enseignants et des chercheurs, pour aller aborder une question qui est à la fois pour le chercheur une question de recherche et une question pour le praticien qui est une question pragmatique pour qu'il a besoin de résoudre dans son contexte.
Pour qu'un jeu soit bénéfique, il faut qu'il y ait un dosage subtil entre toutes les dimensions, un bon équilibre entre toutes les dimensions du jeu, donc les éléments ludiques, les tâches d'apprentissage, les interactions, l'usage des technologies. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut que ce soit là pour servir le but, la tâche d'apprentissage. Il ne faut pas que ce soit gadget. Et donc pour ça, on a besoin en fait de rassembler tout le monde, récupérer les avis et au-delà de ça, de rendre les utilisateurs finaux acteurs, décisionnaires en fait, dans la conception. C'est vraiment ça la conception participative. Chacun va émettre des idées et on va bonifier comme ça le dispositif pour qu'il soit vraiment le plus adapté possible à la situation. Des études ont montré en fait l'importance de l'implication de l'apprenant dans sa tâche d'apprentissage. En fait, on va dire la motivation et l'engagement de la personne sont primordiales en fait pour que l'apprentissage soit bénéfique.
On se dégage, si on s'éloigne d'une situation ou d'une conception du jeu qui amènerait à considérer que le jeu est là pour motiver les élèves et qu'on va finalement arriver à manipuler des élèves ou des apprenants en général en leur faisant croire que la situation est ludique et derrière en mettant des savoirs. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on appelle la technique du chocolat sur les brocolis. On veut faire passer des savoirs, c'est le brocoli, c'est pas très appétissant. Et puis on va mettre une couche de chocolat, une couche de jeu pour faire passer, vous voyez le résultat un petit peu que ça peut donner lorsqu'on commence à mordre dans le brocoli, finalement on ne va plus y revenir. Alors nous, on n'avait pas du tout cette approche-là. Notre idée, c'était une idée déjà de s'appuyer sur les propriétés du jeu, c'est-à-dire de la situation de jeu. Et ça, il y en a un certain nombre. La première, c'est que, effectivement, dans un jeu, on va pouvoir finalement faire de la transposition didactique, on va pouvoir reproduire une situation intéressante du point de vue de l'apprentissage pour les élèves. Ils vont se retrouver à jouer par exemple un rôle au cours duquel ils vont être amenés à développer des connaissances ou des compétences. Un deuxième aspect du jeu, c'est la question de l'autonomie de l'élève, c'est-à-dire que dans la situation de jeu, finalement, l'élève va pouvoir exercer sa liberté, y compris sa liberté de perdre, et peut-être même il va faire exprès de perdre parce que c'est une façon aussi d'apprendre. Et puis cette liberté, elle est encadrée bien sûr par des règles, qui sont les règles du jeu qui permettent de donner à l'élève des feedbacks, ce qui fait qu'il sait à tout moment s'il est en mesure de développer une stratégie pertinente ou pas.
Les éléments ludiques, ils ont des propriétés motivationnelles, ce qu'on appelle les affordances motivationnelles. Et si elles sont bien choisies, si les éléments sont bien choisis, en fait, on va augmenter la motivation des personnes avec un côté ludique. Et donc, on va augmenter son engagement, son autonomie. Et puis aussi, dans les jeux, si on développe la dimension sociale, on se rend compte que l'apprentissage, via les interactions riches entre pairs et puis entre apprenants et tuteurs, ça va permettre aussi de consolider les apprentissages. Donc si on arrive dans un jeu à doser subtilement la partie ludique, les interactions et puis les tâches d'apprentissage, on peut arriver justement à avoir un très bon engagement des apprenants. On a aussi remarqué au cours des 4 ans de projet que la relation entre l'enseignant et ses élèves dans le jeu change. Les enseignants sont acteurs dans le jeu et ça renforce en fait hein, des liens entre les apprenants et leurs enseignants et ça permet en fait hein, aux élèves de voir autrement l'apprentissage et de s'impliquer plus dans leurs tâches d'apprentissage.
Et donc le jeu tel qu'il est fait, effectivement, il pourrait certainement être joué par un enseignant isolé dans sa classe pour sa discipline, mais il a vraiment été conçu de manière à ce qu'une équipe pédagogique qui a envie de travailler l'interdisciplinarité, qui a envie de travailler les liens entre les disciplines, puisse se saisir de ce jeu.
Je recommanderais à un enseignant de se lancer dans l'apprentissage par le jeu pour expérimenter ce changement de posture en fait de l'apprenant. C'est assez flagrant quand on le fait. Quand on demande à ses élèves de jouer dans une situation d'apprentissage, en fait, il y a toute une relation qui s'établit et on voit aussi la motivation et l'engagement qui changent. Et c'est très satisfaisant en tant qu'enseignant de voir ses élèves s'engager, se faire plaisir en apprenant. Et là, c'est pas le chercheur qui parle, c'est l'enseignante.
C'est l'enseignante.